Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Il est 18h35, allez 34, presque 35. On est en direct sur Boursorama, 5 petites minutes pour laisser à tout le monde le temps d'arriver. Merci d'être avec nous ce soir. On est en direct, je l'ai dit, sur Boursorama avec notre webconférence ce soir qui a pour thème tout comprendre au private equity. Ben oui, le terme en lui-même, il n'est pas forcément bien connu des investisseurs. On parle de capital investissement, aussi d'investissement dans le non-coté. Une offre qui propose des rendements intéressants, mais dont le caractère peu liquide, peu accessible, parce qu'il fallait en général investir de gros, voire de très gros montants, la réserver à des investisseurs institutionnels. Mais ça, c'était avant que le private equity ne se démocratise, et surtout avant que Boursorama lance son offre de private equity, puisqu'on va en parler ce soir. C'est le cas depuis quelques semaines, accessible à partir de 25€ en assurance vie et 100€ pour le compte-titre. Oui, mais voilà, dans quelle enveloppe investir? Quelle part de son épargne consacrée à cette diversification? Quels sont les frais liés à ce type d'investissement? Qui dit nouvelle offre dit, bah oui, forcément, plein de nouvelles questions. Et ça tombe bien, j'ai fait avec moi ce soir, vous le voyez, le plein d'experts pour en parler. On va commencer par Bénédicte Rego, responsable développement commercial, banque privée et réseau international chez Amundi Actif Réel. Bonsoir.
Bonsoir Laurent.
À ses côtés, on ne le présente plus, Andrea Dagnano, chef de produit bourse chez Boursorama. Bonsoir Andrea.
Bonsoir Laurent.
Nous avons également Christophe Bavière, membre du directoire d'Euraseo et en charge des relations investisseurs. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Laurent.
Et pour terminer ce panel de qualité, Raphaël Hassan, responsable relations investisseurs chez Odo BHF Private Equity. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir Laurent.
Bon, alors bienvenue à tous les quatre au programme ce soir. On va, comme d'habitude dans les webinaires Boursorama, bien poser les bases, expliquer ce qu'est le private equity, en quoi il consiste concrètement. On verra ensuite dans quelles enveloppes, bien sûr, vous pouvez le détenir. Chez Boursorama, on parlera bien sûr rendement attendu, fiscalité, rachat, et on s'intéressera à la façon pratique, pas à pas, dont on peut souscrire à l'offre au sein de votre espace client. Bien sûr, ce moment d'échange est fait pour vous. Vous pouvez poser vos questions en direct tout au long de la présentation. On a déjà bien sûr retenu certaines. Et puis, on va commencer. Voilà, on va commencer tout simplement, je l'ai dit, cette définition finalement. Aujourd'hui, qu'est-ce que le private equity? C'est à Christophe que j'ai envie de poser cette question.
Alors, en fait, c'est tout simple. Ce sont juste des sociétés de la vie de tous les jours. Elles sont non cotées. Il y a finalement plus de sociétés non cotées que de sociétés cotées. Mais toutes les sociétés non cotées, l'épicerie au coin de votre rue n'est pas forcément une société du private equity, sont des sociétés qui sont détenues par des fonds d'investissement, des fonds de private equity qui ont un horizon de temps qui va être d'accompagner une entreprise pendant, on va dire, 4, 5, 6 ans. Voilà. Et donc, ces sociétés, à part ça, ce sont des sociétés de la vie de tous les jours. Si la montre à votre poignet, c'est une montre Wissing, si vous avez pris rendez-vous pour votre vaccin du Covid auprès de Boursorama, ce sont des sociétés financées par le private equity. Et dans les fonds, si vous utilisez du savon noir briochin ou des produits d'entretien respectueux de l'environnement, c'est une société financée par le private equity. Si vous avez des animaux de compagnie et que vous les emmenez dans des cliniques vétérinaires qui s'appellent Cevetis, ce sont des sociétés financées par le private equity. Donc, c'est tout simplement des sociétés de la vie de tous les jours. Ce que vont tâcher de faire les fonds de private equity, c'est de sélectionner des entreprises qui croissent un petit peu plus vite que la moyenne et qui vont faire des profits un petit peu meilleurs que la moyenne, parce que, bien évidemment, la performance, elle dépend avant tout du développement de ces entreprises.
Bon, c'est très clair, c'est très concret. Vous l'avez retenu, moi, j'ai retenu le savon noir. Il faut le dire. Jusqu'à une période très récente, on n'en parlait pas beaucoup du private equity pour les investisseurs individuels. Bénédicte, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une bonne façon, en tout cas, il y a de bonnes raisons d'orienter son épargne vers le private equity?
Oui, alors, effectivement, Laurent, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les investisseurs particuliers ont un accès très simple au marché des entreprises non cotées, qu'a justement décrit mon confrère. C'est via les fonds communs de placement à risque, les fameux FCPR. Alors, quand je vous dis un accès facile, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, la mise de fonds est modeste. En général, vous avez des montants minimums de souscription qui tournent autour de quelques centaines d'euros. Mais on va le voir, et vous avez commencé à en parler. Oui. Chez Boursorama, on a vu 25€ d'accès à l'assurance vie et puis 100€. Voilà, donc c'est vraiment des montants très très bas. Et avec cette mise de fonds vraiment très modeste, un investisseur particulier peut accéder à un portefeuille déjà constitué, diversifié de plusieurs participations dans de nombreuses entreprises, ce qui lui permet de diversifier son risque. Et troisième point, je dirais que ces FCPR, ils sont éligibles à de nombreuses enveloppes d'épargne, notamment l'assurance vie dont les épargnants français sont si friands. Donc il y a vraiment une démocratisation du private equity aujourd'hui, puisque les épargnants français sont de plus en plus intéressés par la classe d'actifs. Et si on regarde, l'argent qui a été investi par les particuliers au premier semestre cette année, mais on voit que ces montants ont augmenté de 14% par rapport à la même période l'année dernière.
Mais alors justement, excusez la question que je vous posais, mais on l'a reçue. Est-ce qu'avec cette démocratisation, avec cet accès simplifié, avec cette médiatisation, est-ce qu'on ne serait pas finalement dans une, allez, je ne vais pas dire le terme de bulle, mais finalement un effet de mode et peut-être quelquefois une valorisation un peu élevée sur le private equity?
Ah, merci beaucoup pour votre question, Laurent, c'est la vraie question.
Ben oui.
Alors, c'est vrai qu'on peut lire parfois dans la presse que certaines valorisations pouvaient être surévaluées, parfois déconnectées du réel, on lit de tout. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement sur le terrain? Eh bien, on se rend compte que les prix d'acquisition des entreprises d'un côté ont déjà commencé à être révisés à la baisse, pour tenir compte justement des nouvelles données de marché, que ce soit la hausse des taux, la montée de l'inflation, le ralentissement économique. Et la preuve en est, lorsqu'on regarde l'indice Argos, qui justement suit l'évolution des valorisations des entreprises d'un côté dans la zone euro, mais on constate que au début de l'année précédente, en 2021, généralement, les prix d'acquisition tournaient autour de 11,6 fois l'EBITDA, c'est-à-dire les résultats des entreprises. Aujourd'hui, on tourne plutôt en moyenne, ce ne sont que des moyennes, autour de 9,5 fois l'EBITDA, c'est-à-dire les résultats. Donc on a une correction à la baisse en termes de valeur, point d'entrée, valeur d'acquisition.
Donc pas de survalorisation quand je vous
ai... En tout cas, la correction est en marche.
Je le disais aussi, on l'a rendu plus accessible, le private equity. Comment on s'y est pris? Vous l'avez déjà un petit peu évoqué avec les FCPR, mais effectivement, pour peut-être les plus anciens qui nous regardent, on avait en mémoire quelque chose d'illiquide, quelque chose sur lequel il fallait un ticket d'entrée énorme, ce qui le réservait aux investisseurs institutionnels. Comment on a réussi à déconstruire cette mécanique pour le proposer maintenant à vous et moi, finalement?
Via le FCPR, c'est ce que nous disions, le fonds commun de placement à risque, qui sont éligibles dans pratiquement toutes les enveloppes, on va le voir, qui proposent des montants minimums d'investissement, qui sont très facilement accessibles, en offrant de la diversification du risque aux épargnants particuliers, justement.
Bon. Alors là, je retiens ce que vous avez dit, je retiens ce qu'a dit Christophe, on finance des sociétés innovantes, parfois dans le non-coté. On est en décembre, et là, je me dis, tiens, on parle de FCPR, mais il y a aussi les FCPI, fonds communs de placement dans l'innovation. Raphaël, c'est quoi la différence entre ces produits? On pourrait tenter de penser que c'est peut-être la même chose, non?
Alors, je pense qu'il faut distinguer aussi des produits éligibles pour certaines enveloppes. Ouais. Ce qui est intéressant, le fonds commun de placement à risque, il rentre dans le cadre historiquement de ce qui a été instauré par la loi Pacte. Mm-hmm. Et ça permet effectivement de rendre éligible du private equity dans certains supports.
D'accord.
On a parlé du compte titre, on a parlé du PEA-PME, on a parlé de l'assurance vie. C'est quand même aujourd'hui là que l'essentiel de l'épargne des Français se situe. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est l'enveloppe du FCPR qui permet d'adresser ce sujet-là. Le FCPR, effectivement, il a pour objectif d'aller financer des actifs en private equity. Mmh. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'il permet d'avoir des conditions et des contraintes qui vont être moins élevées que pouvait être historiquement le FCPI.
D'accord.
Et donc, c'est principalement ça qu'on va retenir.
Ouais.
C'est cette porte d'accès sur le FCPR qui, aujourd'hui, a pour ambition d'aller offrir une expertise qui se rapproche encore un peu plus de ce qu'on fait historiquement plutôt pour des institutionnels.
Ouais. Alors, on a bien fait le distinguo, on rentre un petit peu dans le technique, mais c'est ça aussi pour que les gens comprennent bien ce soir, il y a deux types de marchés dans le private equity, primaire et secondaire. Là, les gens disent, voilà, ça y est, on commence déjà tout de suite les complexités. En quoi ça consiste précisément, peut-être l'un de vous deux, ou les deux d'ailleurs, sur ces marchés primaires et secondaires?
Je peux peut-être commencer, et puis Christophe, je vous laisse compléter. Il faut considérer que s'il fallait faire une métaphore, dans le private equity, on est tous des écrivains, avec plus ou moins de succès.
Oh, c'est beau,
comme dans les livres. Il faut considérer qu'on écrit, on essaye tous d'écrire des livres d'à peu près une dizaine de chapitres.
Uh-huh.
Un fonds de private equity va durer en moyenne à peu près une dizaine d'années. Ça
D'accord.
peut être un peu plus, un peu moins. Quand on fait du primaire, notre métier, c'est d'aller financer des actifs qui sont sur une phase de levée de fonds. Donc, on arrive sur un chapitre introductif.
Donc, des jeunes sociétés, c'est ça, qui se lancent?
Pas forcément.
Pas forcément.
Puisque le primaire va pouvoir ensuite adresser différents stades de maturité
D'accord.
de l'entreprise, mais ça correspond au moment où on va financer le tour. Ce qui va se passer, c'est que dans le primaire, donc on va écrire un livre sur, mettons, à peu près une dizaine d'années.
Mm-hmm.
Donc on arrive au chapitre introductif et on va écrire l'ensemble des chapitres. C'est un peu le marché du neuf du private equity.
Mm-hmm.
Quand on arrive en secondaire, notre métier, mm-hmm. c'est d'offrir une liquidité à une classe d'actifs qui naturellement est illiquide.
Mm-hmm.
Donc le métier, c'est de reprendre un livre. D'écrire les chapitres suivants. Donc ça peut être le chapitre 5, 6, 7. En général, on va trouver à peu près cet horizon dans lequel on va se substituer à un investisseur historique, reprendre sa position. Le bénéfice quand vous faites ça, évidemment, c'est que vous avez pu lire ce qui s'est passé sur les premiers chapitres. Si l'histoire vous intéresse, vous pouvez très bien écrire la suite. Si l'histoire ne vous intéresse pas, vous pouvez très bien prendre un autre livre pour poursuivre l'écriture.
Mais alors, peut-être pour nos...
Pour les gens qui nous regardent ce soir, bien sûr.
C'est assez simple, c'est les mêmes sociétés sous-jacentes. Quand vous, aujourd'hui vous souscrivez à un bon fonds immobilier, est-ce que vous posez la question à votre gérant, combien d'immeubles ont été construits par vous, combien d'immeubles ont été rachetés par vous? Quand vous souscrivez une bonne SICAV obligataire, est-ce que vous posez la question, combien d'obligations ont été souscrites à l'émission et combien d'obligations ont été achetées sur le marché comme ça,
c'est
sur le marché secondaire?
C'est vrai qu'on n'a pas forcément ce genre
de détails. On pose plus la question. Ce qu'on pose comme question, c'est quelle est la qualité des immeubles, c'est un fonds immobilier, quelle est la qualité des obligations, c'est un fonds obligataire. Quelle est la qualité des participations sous-jacentes, des entreprises sous-jacentes, des PME, des ETI qui sont sous-jacentes, si c'est un fonds de private equity. Et finalement, c'est un débat technique, c'est un débat, mais pour l'investisseur, c'est finalement assez neutre. C'est, l'important, c'est la qualité des entreprises sous-jacentes.
Par contre, il faut comprendre, messieurs, qu'il y a des fonds qui sont plus dans le primaire et d'autres dans le secondaire.
C'est une technique. Voilà. Il y a des techniques différentes. Voilà, ça va effectivement influencer un petit peu la diversification, la maturité, le cycle de développement. Mais de toute façon, l'investisseur, aujourd'hui, vous l'avez très bien écrit tout à l'heure, le marché se démocratise. Un investisseur, il peut choisir des stratégies extrêmement différentes sur le domaine du private equity. C'est peut-être une des choses sur lesquelles il faut avertir nos interlocuteurs, c'est que le private equity, c'est des stades d'entreprises extrêmement différentes. J'ai dit tout à l'heure, c'est des entreprises de la vie de tous les jours. Mais il y a des entreprises, et effectivement, les FCPI sont focalisées sur l'innovation, c'est des entreprises jeunes et innovantes. Puis après, il y a des entreprises qui sont plus matures, il y a des entreprises qui sont très grosses et très matures. C'est le LBO Large Cap, des très très grosses entreprises. Il y a des stratégies de secondaire. Mais finalement, vous choisissez, un peu comme vous choisissez un fonds immobilier, en vous disant, je veux un fonds qui fait du commercial, qui fait du bureau. Vous pouvez choisir un fonds de private equity de la même nature.
Bon, ben voilà, c'est très clair, très concret. On a expliqué maintenant un petit peu la philosophie, la façon dont fonctionnait le private equity. On va rentrer dans le détail, des détails très pratiques, très intéressants pour l'investisseur, à commencer par un qui est fondamental, important. Quel est le rendement moyen attendu par ce type de fonds, messieurs?
Alors, c'est toujours compliqué. Vous savez que le régulateur en France...
Alors, on va mettre toutes les pincettes qu'il faut, les précautions... Voilà.
Mais la recherche académique dans la finance, elle dit que le rendement moyen des actions, c'est à peu près 8%. Le rendement moyen du private equity, ça a régulièrement été le double. Donc, on parle quand même d'une surperformance. Alors, après, chacun a ses statistiques, mais on parle quand même d'une performance qui est très significativement différente. Voilà. Alors, ce n'est pas... C'est aussi en prenant en compte le fait que on peut acheter des actions et avoir de la chance. Vous pouvez acheter des actions au plus bas, avoir un cycle haussier extraordinairement court. Ça arrive, il faut être très bon. Hein. Mais vous vendez au plus haut 3 mois plus tard, ça arrive. Pas très souvent, mais ça arrive. Dans le private equity, il faut aussi tenir compte d'une chose, d'une performance. Vous n'achetez pas un fonds de private equity le 1er janvier, vous avez de la chance, c'est au plus bas. 3 mois plus tard, c'est au plus haut. 6 mois plus tard, c'est au plus bas. Non. Si vous voulez capter la performance du private equity, il va falloir accompagner des aventures entrepreneuriales. Elles durent en moyenne 5 ans. Et c'est un peu comme sur un fonds immobilier où la valeur va s'exprimer dans le temps. Voilà, la valeur d'un portefeuille de private equity, elle va s'exprimer dans le temps. Donc c'est une surperformance indéniable, mais c'est une surperformance qui va s'exprimer avec une nature très différente de ce que vous pouvez avoir dans d'autres types de placements où parfois le temps court peut se révéler
très fructueux.
Le temps court, c'est pas une notion du private equity.
L'autre terme qu'on utilise effectivement pour compléter ce que dit Christophe, quand on parle de private equity ou capital investissement, on associe souvent la notion de capital patience. Le private equity, c'est une classe d'actifs qui ne se time pas. Effectivement, comme le souligne Christophe, c'est une approche sur laquelle on construit une allocation dans le temps par millésime, sur laquelle on accompagne le développement d'entreprise et sur laquelle l'importance de rentrer sur un millésime doit être linéarisée dans la diversification patrimoniale du client. Donc le plus important quand on fait du private equity, c'est aussi la régularité avec laquelle on construit son allocation. Encore une fois, comme le souligne Christophe, l'objectif, et je pense qu'il est assez clair, quand on rentre dans une classe d'actifs de ce type, c'est qu'on accompagne dans la durée une entreprise sur son développement, sur sa transmission, sur ses capacités à faire de la croissance organique, sa capacité à faire de la croissance externe, potentiellement à rentrer sur de nouveaux marchés. Donc, concrètement, ce ne sont pas des plus-values sur lesquelles on s'inscrit sur un horizon court. Ça va être une construction de valeur sur laquelle il peut potentiellement avoir une valorisation qui s'établit après plusieurs années ou un peu plus tôt, si ça peut se concrétiser un peu plus tôt. Mais concrètement, c'est absolument incomparable avec une performance boursière sur laquelle le marché boursier vous donne une valorisation tous les jours. Il faut encore une fois garder en tête que private equity, le terme anglo-saxon est beaucoup plus proche de la réalité. Equity, donc capital privé, par opposition au capital public. Donc il n'y a pas de prix public. Quand vous investissez demain dans la société que va monter votre oncle, deux semaines plus tard, vous êtes incapable de me dire si ça vaut 10% de plus ou 10% de moins.
C'est plus compliqué,
c'est sûr. C'est assez illusoire, ça va dépendre de beaucoup de choses. Et très souvent, vous approchez d'une valeur de cession dans un process sur lequel soit vous avez un comparable dans lequel vous avez une bonne indication de ce que peut valoir votre société, et très souvent, ça va mettre un petit peu de temps à le définir, soit vous êtes dans un processus de cession qui est bien enclenché, sur lequel vous avez une visibilité potentielle sur la valeur de sortie de vos actifs. Alors, donc, ce sont effectivement des choses qui prennent beaucoup de temps.
Ouais, je retiens, on retient capital, patience, et ça, c'est peut-être un concept à bien garder quand on parle des horizons de placement. Moi, quand même, dans mon B.A.B.A. de l'investisseur particulier, là, quand on me dit plus de rendement, plus il y a de rendement, plus il y a de risques. C'est quoi les risques d'un FCPR ? Allez, soyons complètement transparents et complets sur la présentation du produit.
Il y a toujours. Je ne sais pas s'il existe tant de classes d'actifs que ça, tant de formes d'investissement qui sont sans risque. Il y a toujours une forme de risque dans l'investissement. Et pour ceux qui ont investi dans des obligations récemment, hein, les obligations, ça peut aussi avoir des cycles assez violents.
2022, début 2022, c'était un peu compliqué.
Voilà. Donc il y a toujours. Ce sont des entreprises. On finance des entreprises de la vie de tous les jours. Les entreprises de la vie de tous les jours, elles n'ont pas toujours leur chiffre d'affaires qui monte d'année en année. Elles n'ont toujours pas leur profit qui monte d'année en année. Donc sur ce plan-là, c'est du risque. Après, comme effectivement c'est du temps et que vous n'investissez pas le 1er janvier pour vendre le 30 juin, globalement, cette classe d'actifs-là, ce qu'elle a démontré dans le temps, c'est que si vous faites bien votre métier, il y a quand même beaucoup d'acteurs du private equity qui font bien leur métier, parce que si l'ensemble de la classe d'actifs a montré des performances qui sont aussi bonnes, c'est parce que ça marche bien. Ce qui est sûr, c'est que normalement, si vous adossez une entreprise dont le chiffre d'affaires monte, dont les résultats montent, dont la diversification internationale s'accroît, vous la vendez plus cher que vous l'avez acheté. Donc oui, ça présente du risque. Et selon les natures des entreprises, on a dit qu'il y a une partie du private equity qui finance des entreprises jeunes et innovantes. Elles ne deviennent pas toutes des Google. Bon, oui, il peut y avoir un peu de casse. Mais sur longue période, cette notion de risque, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la meilleure manière de l'atténuer, c'est d'être régulier. Voilà. C'est d'être patient. C'est d'accompagner des entreprises. Et finalement, il faut sélectionner quelqu'un qui sélectionne bien ces entreprises. Ah, mais globalement, si vous regardez les stratégies de private equity sur très longue période, il n'y a pas de décrochage ou de volatilité comme il peut y avoir sur d'autres formes de placement coté.
Bon. Oui.
En complément, peut-être pour ajouter au propos de Christophe, bien évidemment que sur ces niveaux de rendement qu'on annonce, bien évidemment qu'il y a un risque de perte en capital. Il n'y a absolument aucune protection au capital. On est sur une classe d'actifs qui est risquée. À côté de ça, il faut aussi considérer qu'on a un risque de liquidité. Mais le risque de liquidité, il est intrinsèque à la classe d'actifs.
On en est bien conscient.
Elle est par nature illiquide. Ouais. Donc il faut bien comprendre également que l'objectif de performance qui peut parfois être plus élevé que ce qu'on peut avoir sur les marchés cotés, il est aussi intrinsèquement lié au fait que dans le triptyque qu'on observe quand on cherche à construire une allocation, il n'y a pas que le rendement et les risques. Il y a le rendement, le risque et la liquidité. Il s'avère qu'effectivement, statistiquement, le rendement ajusté du risque est plutôt en faveur du private equity statistiquement. En revanche, là où le bas blesse, c'est bien évidemment sur la liquidité. On n'a pas rien sans rien. C'est très complexe d'avoir quelque chose de liquide au jour le jour, avec une meilleure performance et moins risqué.
C'est ce qu'on aimerait tous, mais ça n'existe pas.
Bien évidemment, en fait, il faut comprendre que le private equity, sur ces aspects-là, ne coche pas les cases. En revanche, les enveloppes dans lesquelles on peut loger le private equity permettent partiellement, dans certaines conditions, de bénéficier d'une liquidité un peu plus fréquente.
On va y revenir, on a parlé rendement, on a parlé risque, on a été complet. Il faut parler aussi frais, bien sûr. Comment ils se décomposent, Bénédicte, les frais sur un FCPR ?
Les frais, c'est comme dans tous les fonds que vous pouvez connaître, un private equity ou pas, vous avez des frais de gestion, de fonctionnement, qui viennent rémunérer la société de gestion qui va prendre déjà le soin de sélectionner les bonnes entreprises, les accompagner dans le temps, et puis gérer le fonds lui-même. Et ces frais de gestion de fonctionnement, ils tournent autour de 2-3% par an. D'accord. Et ils sont calculés sur la base soit du portefeuille global du FCPR, soit dans quelques cas, sur le portefeuille qui est investi uniquement sur les entreprises non cotées. Donc ce sont les principaux frais. Puis alors, à côté, Vous avez ce que dans notre affreux jargon, on appelle le carried interest. Alors là, c'est tout simplement un mécanisme qui permet d'égaliser les intérêts, d'aligner les intérêts entre, d'une part, les gérants et, d'autre part, les investisseurs. Mm-hmm. C'est une petite partie de la performance qui va être rétrocédée aux gérants. Si et seulement si ils ont atteint un certain niveau de performance, s'il fait bien son boulot, s'il a bien créé de la valeur au profit des porteurs de parts, et il touchera cette petite commission sur la performance à la fin de vie du fonds, si l'objectif a été réalisé. Donc ça permet de motiver le gérant à créer de la valeur. Ouais. C'est excellent pour...
L'alignement des intérêts.
Et c'est l'alignement des intérêts. Ouais. Donc c'est très sain, c'est très en faveur, je dirais, du porteur de parts. Et puis enfin, vous pouvez trouver des droits d'entrée dans les FCPR. Mmh. Mais la bonne nouvelle, je crois, vous allez nous en parler, c'est que chez Boursorama, c'est tous les FCPR avec zéro droit d'entrée.
Ah, mais
c'est bien ça.
On a une slide.
Et ça, c'est merveilleux.
On aime bien ressortir à chaque webinaire.
On touche du doigt quelque chose qui est très important, effectivement, l'alignement d'intérêts. C'est quelque chose qui est très propre à la classe d'actifs, qui l'a toujours été. Mmh. Ça fait partie d'une ADN qu'on retrouve, je pense, sur toutes les stratégies qu'on peut établir au sein du private equity. Il faut comprendre que c'est une classe d'actifs dans laquelle ce sont les gérants de portefeuille qui mettent leur argent personnel au travail et qui le rendent donc dans des conditions de blocage qui sont identiques à celles des clients, voire parfois plus contraignantes. Voire dans certaines situations, ils sont remboursés uniquement si les clients sont eux-mêmes remboursés.
Ah oui.
Donc, on peut avoir aussi une mécanique de subordination, ça dépend de ce qui est structuré au sein des fonds, mais effectivement, on a un peu les doigts dans la prise avec les clients. Donc,
Je préfère mon image de bateau, c'est moins effrayant. Question, donc on a parlé justement de la liquidité et on a eu beaucoup de questions. Est-ce qu'il est malgré tout possible de faire des rachats en cours de vie du produit ? J'ai bien compris, Christophe, qu'il fallait plutôt être dans la durée, mais si jamais j'ai besoin.
Alors, il y a souvent dans le règlement des fonds ce qu'on appelle les cas de force majeure, c'est-à-dire que si vous faites face à des situations de décès, invalidité, chômage, il y a souvent ce qu'on appelle les cas de force majeure, c'est-à-dire que là, effectivement, le fonds tient en compte la spécificité de votre situation et vous offre une fenêtre de liquidité. Mais sinon, effectivement, dans la plupart des cas, il faut attendre jusqu'au bout. Il faut dire aussi que dans les fonds de private equity, très souvent, la valeur intermédiaire compte pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a le moment où vous achetez la valeur d'une entreprise, il y a les 5 ans que vous passez avec. C'est très bien de savoir si son chiffre d'affaires monte, son chiffre d'affaires. Ce qui est important à la fin, qu'est-ce qui va véritablement compter, c'est le prix auquel vous allez la vendre. Ouais. Parce que c'est le prix auquel le fonds vend qui fait que les porteurs de parts sont remboursés. Ce n'est pas comme quand vous achetez une SICAV CAC 40, ou peu importe si le gérant de la SICAV a acheté ou une part, une action. Ce qui est important, c'est vous, est-ce que vous avez acheté la valeur de la SICAV à tel moment, est-ce que vous l'avez vendue à tel moment. Là, dans un fonds de private equity, ce qui va véritablement créer votre performance, c'est d'attendre le moment, le vrai rendez-vous avec la valeur, c'est le moment où la participation est cédée et c'est le moment où le fonds vous rembourse. D'accord. Donc c'est quand même ça qui constitue le gros de la création de valeur. C'est pour ça qu'on parle de patrimoine, de capital patience, c'est-à-dire que le vrai moment où vous savez si l'entreprise, le témoin, le rendez-vous
a bien performé
c'est
ou pas.
C'est bien le rendez-vous de vérité, c'est le moment de vérité, c'est bien si l'entreprise est cédée beaucoup plus cher ou pas que ce que vous l'aviez acheté initialement. Donc, c'est effectivement, il y a cette notion qu'effectivement, en dehors des cas de force majeure, il peut y avoir des mécanismes dans certains fonds, mais qui sont un peu coûteux,
sont des mécanismes. On comprend que c'est pas vraiment prévu pour.
C'est pas véritablement prévu pour. Retenir, mais encore une fois, c'est pas si différent que si demain vous achetez un studio pour vos vieux jours. Si vous le vendez 3 mois après, même 2 ans après, la probabilité que vous ayez fait
une plus-value
mirifique sur un marché de l'immobilier, faut être un génie. Ouais. Ça arrive d'avoir de la chance. C'est pas, statistiquement, vous ne pouvez pas parier là-dessus. Voilà. Et donc, en fait, c'est surtout cette classe active. Mais ce que je vous dis là peut paraître effrayant. Mais quand vous regardez le comportement des épargnants français, et vous en êtes un bon observateur, combien d'entre nous font entre le 1er janvier et le 31 décembre, des tas d'arbitrages avec notre épargne.
On n'est pas tant que ça.
D'abord, combien d'entre nous le font avec succès ? Pas tant que ça. Donc, si on peut se permettre d'être patient, on est sûr d'avoir, c'est jusqu'ici
on
statistiquement,
une bonne probabilité de son côté.
On a une bonne probabilité de capter une performance de son épargne en accompagnant des entreprises qui courent un tout petit peu plus vite que la moyenne, qui font plus de croissance que la moyenne, qui ont une particularité qui intéressera un futur acheteur plus fort que la moyenne, et on génère de la surperformance. Mais effectivement, il y a cette chose qu'on ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas tricher, c'est quand même une classe d'actifs qui ne se prête pas au court terme.
Bon. On l'a dit, ce qui est intéressant aussi pour les FCPR, c'est, et on l'a évoqué, voilà, on a tourné autour du pot, on va maintenant traiter le sujet, il peut prendre place au sein de différentes enveloppes. Bah, quelles sont-elles, ces enveloppes, Bénédicte ?
Laurent, d'abord, le chouchou des Français, c'est quand même
l'assurance vie. Allez, ça, c'est merveilleux. 800 milliards d'euros d'actifs.
Voilà. Donc, un FCPR, vous pouvez déjà le souscrire dans le cadre de l'assurance vie.
Bon.
Déjà, chez Boursorama, vous êtes bien informé de ce fait. Vous pouvez également le souscrire dans peut-être la future enveloppe à succès, qui est le plan d'épargne retraite, tout à fait éligible, bien entendu dans le compte titre, et enfin dans le PEA-PME.
Voilà. On voit quand même que les possibilités sont nombreuses.
Mais oui, quand je vous disais qu'il est facilement accessible,
alors,
là vous le
touchez. Facilement accessible, et là je me dis, bon, c'est super.
Oui.
Et je me tourne vers Raphaël, je me dis, mais alors finalement, dans quel cas je vais avoir envie de le mettre dans l'enveloppe qui va bien? C'est-à-dire, quel est finalement l'avantage de ces différentes enveloppes? Dans quelle situation je vais peut-être privilégier l'une plus que l'autre?
Alors je pense que. Aujourd'hui, effectivement, sur l'étagère, chez Boursorama, il y a vraiment trois enveloppes à distinguer qui sont actives, opérationnelles, je pense, sur les véhicules qui sont référencés.
On va parler de ce qui est possible.
Et sur ces trois enveloppes, donc, le compte-titre, c'est l'enveloppe la plus classique sur laquelle, par définition, on va rentrer dans le véhicule, on investit dans le véhicule, sur le ticket d'entrée que vous avez mentionné, qui est relativement accessible, effectivement, sur lequel donc, on va porter l'ensemble de la durée de vie du fonds, sans possibilité de rachat, sauf conditions particulières prévues dans certains fonds, mais a priori, pour revenir sur la question précédente, les rachats sont bloqués. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de distribution. Donc, ce serait un peu une forme des formes de coupons ou dividendes qui pourraient revenir. En revanche, les sommes initiales restent bloquées sur la durée de vie du fonds.
Okay.
Ça, c'est l'enveloppe plus classique sur le compte-titre. Et ensuite, fonction de si les véhicules sont des FCPR fiscaux ou non fiscaux.
Ouais, on va parler de ça.
Pense que c'est une question un peu différente. Effectivement, les options de sortie seront un peu différentes. On va dire que sur un format standard non fiscal, c'est la flat tax qui va s'appliquer sur la plus-value, à savoir 30% en France aujourd'hui. Hein. Ça ne veut pas dire que demain ce sera encore le cas.
Ouais.
Aujourd'hui, du moins,
c'est
la flat tax qui s'applique dans le cadre des fonds fiscaux qui remplissent d'autres conditions, qui ont d'autres contraintes d'investissement, mais qui peuvent rentrer dans ce cadre-là, toujours au sein du compte-titre. Auquel cas, il y a uniquement les prélèvements sociaux, donc CSG, CRD, aujourd'hui c'est 17,2 en France, donc c'est effectivement un peu moins chargé, ça ne concerne pas forcément toutes les enveloppes. Donc ça, c'est pour le compte-titre. Dans la deuxième verticale, qui est le PEA-PME, a priori, les FCPR référencés chez Boursorama sont éligibles dans cette enveloppe. Le bénéfice de l'enveloppe PEA-PME, c'est de bénéficier du régime fiscal de l'enveloppe PEA-PME. Attention, ça ne veut pas dire qu'on intègre de la liquidité. On reste dans les mêmes contraintes.
Ça ne change pas les caractéristiques.
Ça n'en change rien aux caractéristiques. Ouais. En revanche, on bénéficie de l'enveloppe fiscale qui est permise par le PEA-PME, puisque ces FCPR, en l'occurrence ceux qui sont gérés par les maisons que nous représentons, sont éligibles de plein droit. La troisième enveloppe, effectivement, c'est la part du lion, comme vous le soulignez, et à raison, en toute objectivité, c'est l'assurance vie française. Alors, l'assurance vie française, elle a une contrainte qui
le
est imposée.
Le fameux couteau suisse, hein, c'est le cliché, mais en même temps, c'est vrai. C'est vraiment, on se rend compte qu'on arrive à entrer un nombre d'actifs incroyable.
Elle a une contrainte qui est quand même assez forte et assez contre-intuitive avec le private equity, c'est que l'assurance vie française est censée avoir une liquidité tous les 15 jours. Et là, vous comprenez qu'on a cherché à faire rentrer des ronds du private equity qui n'était pas liquide,
dans
des carrés. Alors, vous savez que des ronds, ça ne devient jamais vraiment des carrés, donc on a fait des hexagones. On a essayé de faire des hexagones.
Très imagé ce soir, Raphaël.
Ah ouais, on essaye. Et ces hexagones marchent plutôt bien, puisque la contrepartie, effectivement, pour honorer cette liquidité, ce sont des conditions précises dans lesquelles les assureurs, qui, eux, permettent, en réalité, de porter les rachats. C'est pas techniquement les fonds qui honorent les rachats, ce sont les assureurs qui viennent se substituer
pour fournir
la liquidité aux assurés au cas où ils veulent faire des arbitrages ou des rachats. Et ça, encore une fois, il faut se rapprocher des conditions qui sont prévues par l'assureur, par le contrat d'assurance vie et par l'avenant du contrat d'assurance vie pour s'assurer des possibilités dans lesquelles l'assureur peut fournir une liquidité. Mais effectivement, ça permet d'aller cocher une case qui, a priori, n'était pas historiquement disponible pour la classe active.
Donc
c'est effectivement une évolution assez forte pour le capital investissement.
Christophe, vous vouliez...
J'avais juste une petite précision, ce que disait Raphaël, les FCPR fiscaux. Il ne faudrait pas qu'il y ait de confusion. L'avantage fiscal, il n'est pas à l'entrée Lors de la souscription,
hein, comme on trouve dans certains projets. Ma question, mais c'est pas grave.
Je suis désolée,
parce qu'effectivement, on a aussi, on a parlé primaire, secondaire, et il y a aussi ces deux grandes classes de FCPR, FCPR juridique et FCPR fiscal. Quand on entend ça, quand on a une histoire particulière, on se dit, bon, bah, il y en a un qui est là pour défiscaliser, puis l'autre, juridique, je ne sais pas, on ne sait pas trop.
Donc,
les dénominations, là aussi, sont un petit peu nébuleuses.
Oui, alors, juste un mot sur le fiscal.
Alors, allons-y.
C'est pas comme un FIP, par exemple, un fonds d'investissement. Voilà. C'est un intérêt fiscal à la sortie uniquement dans le compte-titre. Parce que quand vous allez dans une autre enveloppe, on se loge dans le contexte fiscal de l'enveloppe, la dite enveloppe, assurance fille ou autre. Et cet avantage fiscal est assorti de petites contraintes, parmi lesquelles je citerai juste l'obligation de détention au moins pendant 5 ans
d'accord.
des parts.
Ouais.
Ça, c'est du côté de l'investisseur. Mmh. Et puis, du côté de la société de gestion, elle doit respecter certaines règles. Par exemple, ne pas distribuer de produits ou de plus-value pendant les 5 ans. Voilà. Donc, c'est assorti de quelques contraintes, quand même.
Juridique, fiscal, comment je me décide, Christophe ?
Mais Laurent, on peut peut-être aussi donner un conseil à nos interlocuteurs sur le... Aujourd'hui, on voit quand même que chez un grand nombre d'investisseurs institutionnels et chez un grand nombre de marchés internationaux, la part du private equity dans une allocation d'épargne, elle est beaucoup plus importante que ce qui est le cas aujourd'hui encore en Europe. Il y a des family office, il y a des fonds souverains,
on est un
des
peu
grands
en
fonds
sur
qui peuvent avoir jusqu'à 25%, parfois même pour certains family office, beaucoup plus. Donc un conseil qu'on peut peut-être donner à nos interlocuteurs, c'est le fait de leur dire, aujourd'hui, lorsque vous rentrez un petit peu de private equity, aujourd'hui, sur l'ensemble de l'épargne des Français, l'argent qui est mis au travail dans des entreprises, dans des entreprises qui créent de la valeur sur longue période, lorsque leur chiffre d'affaires s'accroît, lorsque leur bénéfice s'accroît, quelle est la part ? Elle est encore incroyablement faible. Donc si aujourd'hui, un épargnant commence à rentrer un petit peu de private equity dans son patrimoine.
Ouais.
Il ne va pas rentrer. On a dit que c'était une classe d'actifs qui ne se prêtait pas à faire du stop and go. Il faut y aller de manière régulière. Donc, notre épargnant ne va pas démarrer en disant « j'ai mis 50% de mon patrimoine dans le private equity ».
Non.
Imaginez que vous en mettiez 5,
en tout cas.
Puis 10. Ouais. Ce sera adapté à chacun en fonction de voir, selon son âge, selon sa maturité, dans sa constitution d'un patrimoine. Mais imaginez que vous en ayez construit 10%. Imaginez que vous ayez un incident de la vie qui fait qu'effectivement, il faut que vous pompiez dans une partie de votre épargne. Rien ne vous empêche d'aller d'abord prélever dans une partie de votre épargne qui est plus liquide.
De sécurité,
donc, quand on parle souvent du fait, est-ce que le private equity, si on en a mis une proportion, est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est illiquide, si on en a mis une proportion, c'est un peu comme l'immobilier. Si vous avez mis de côté
si
pour acheter un studio, deux pièces,
ça peut
et que vous avez besoin de vous racheter une nouvelle voiture, vous n'allez pas commencer par vendre votre... Donc c'est une partie quand même aussi du patrimoine qui peut être une partie qu'on conserve sur la période, avec d'autres parties de son patrimoine qui sont plus adaptées à se dire « j'ai besoin d'une dépense à court terme, je vais chercher dans d'autres parties mais de mon épargne ». Mais gardons bien en tête le fait qu'aujourd'hui, l'épargne des Français, si on la compare à l'épargne d'autres épargnants internationaux, des fonds de pension, des très grosses familles et des très gros... Leur proportion de private equity, et elle n'est pas là par hasard. Hein. Des très grosses familles, des très gros fonds souverains et des très gros fonds de pension sont des gens qui chassent la performance d'une manière très, très puissante. Voilà. Donc prenons en compte ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle à des épargnants français, on parle quand même d'une ouverture au private equity. Hein. Donc avant que se pose la question de savoir... Est-ce que j'en ai trop ? Est-ce qu'il faut que je...
Il y a encore un petit peu de temps qui va passer.
Nous avons devant nous un certain temps. Surtout que c'est une classe d'actifs très particulière. C'est pas vous qui désinvestissez, c'est elle qui désinvestit. À un moment donné, et effectivement, Raphaël l'a rappelé tout à l'heure, parfois ça se produit plus vite qu'on le croit, l'investissement est vendu. Et donc on vous rend de l'argent. Donc je vous dis, si vous souscrivez une SICAV CAC 40 et que vous ne donnez pas d'ordre de vente, vous allez être propriétaire pendant 10, 20, 30, 40, 50 ans. Si vous faites un investissement dans un fonds de private equity, il va vous rendre de l'argent. Vite, s'il est bon, un peu moins vite, s'il est un peu plus moyen, mais il va vous rendre de l'argent. Donc ce n'est pas non plus, c'est quelque chose qui est très particulier dans le comportement d'une épargne. Si vous achetez un deux pièces pour vos vieux jours, si tant que vous ne donnez pas l'ordre de le vendre,
vous y tenez,
il est dans votre patrimoine.
Vous passez
là, c'est particulier, ce n'est pas vous qui donnez l'ordre de vente, c'est le gérant qui va vous dire j'ai cédé telle participation, je vous renvoie de l'argent. Ce n'est pas si courant dans des produits d'épargne qui vous disent je vous renvoie de l'argent parce que c'est fini. J'ai fini mon aventure avec mon entreprise.
Juste Raphaël, pour terminer, quand même, pour que ce soit bien clair ce débat, FCPR juridique, FCPR fiscal, qu'est-ce qu'il faut retenir, simplement, quand on est un investisseur particulier?
Vous savez, quand on parle de fiscalité en France, c'est jamais très simple. S'il fallait retenir, en fait, il faut la dénomination de savoir si le FCPR est fiscal ou juridique. Oui. Mmh. Déjà, savoir dans quel cas de figure on se situe, ça va être indiqué dans les documents juridiques du fonds. Donc dans le règlement, dans un document qu'on appelle le DICI, qui devient le DIC PRIPS, et qui est mis à disposition avant tout investissement à l'investisseur. Donc la première chose, c'est de vérifier si on rentre dans une case ou dans l'autre. Et c'est généralement visible en préambule, en tout premier, quand on regarde le règlement. Alors, c'est pas forcément des choses qui sont très simples à lire, puisque c'est des documents qui sont juridiques.
Mais il faut y passer un petit peu de temps quand même.
Mais c'est important évidemment de ça toujours savoir ce dans quoi on va mettre de l'argent, encore une fois on le rappelle, sur a priori une durée, une période de blocage qui est relativement longue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui est important, c'est que la notion de savoir si on va rentrer sur FCPR fiscal, comme on le disait déjà, qu'il y a une période assortie de blocage de 5 ans, sur lequel il n'y aura pas de distribution. C'est donc on ne pourra pas avoir de retour quel qu'il soit, quand bien même le gérant serait merveilleux et rendrait, et rendrait 100% de la performance en une année, et malgré tout, il ne pourrait pas le rendre à ses investisseurs. Il devrait le conserver dans le fonds pendant une période de 5 ans.
C'est un point super important. C'est
une contrainte.
Tout à fait.
Donc vous n'avez pas rien sans rien. On vous a sorti... Tout se paye techniquement, surtout sur une fiscalité de sortie sur les plus-values. On ne peut pas vous octroyer la même fiscalité sans avoir ce blocage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si on cherche à aller adresser une enveloppe qui n'est ni du compte-titre, qui n'est pas du compte-titre, parce que vous l'avez compris, quand on rentre dans le PEA-PME, quoi qu'il arrive, c'est la fiscalité du PEA-PME qui va l'englober. Ouais. Donc que le produit soit fiscal ou non, ça ne change rien. La fiscalité sera celle du PEA-PME.
C'est celle de l'enveloppe qui va...
Qui l'emporte. Et c'est pareil pour l'assurance-vie. Donc le client qui se dit, je veux plutôt allouer mon allocation en private equity au travers d'une enveloppe PEA-PME ou assurance-vie, en réalité, il n'a même pas à se poser la question, puisque la fiscalité sera exactement la même dans les deux situations, à savoir que c'est la fiscalité soit de l'assurance-vie qui s'appliquera, soit du PEA-PME. Il y a uniquement dans le cadre où on veut investir dans le cadre d'un compte-titre, où là, il faut se poser la question.
Bon, c'est très clair. Vous avez vu, Andréa, comme je vous ai mâché le travail, d'habitude, c'est vous qui vous tapez la fiscalité. Et là, Raphaël, Christophe et Bénédicte ont fait quasiment tout le boulot.
Ça me manque presque.
Vous voulez refaire un point sur la fiscale ou on passe direct sur le 1%?
Peut-être qu'on y reviendra très brièvement.
Alors, on va maintenant expliquer, puisque on a vraiment bien expliqué ce point fiscal, et je pense que c'est un petit important. C'était important, pardon.
Tout à fait.
On va parler de l'offre Boursorama, forcément. Exactement. Et quand on parle de l'offre Boursorama, on parle toujours un petit peu, faut le dire, aussi, de Boursomarkets.
Du Boursomarkets. Ouais. J'espère que maintenant, nos interlocuteurs ont un peu l'habitude. On en parle souvent. Alors, je le rappelle quand même brièvement pour tout le monde, le Boursomarkets, c'est quoi? C'est un service qu'on a mis à disposition de tous nos clients.
On peut voir la première slide à l'écran, la grande slide classique du... Voilà, merci beaucoup à la régie.
Voilà, donc c'est un service qu'on a mis à disposition de tous nos clients et qui permet d'investir sur un certain nombre de produits sans aucun frais d'entrée, sans aucun frais de courtage. Donc brièvement, on avait fait les ETF en gestion passive, les fonds actifs SICAV FCP, on avait rajouté les FIP FCPI, on en a parlé un peu tout à l'heure, on avait rajouté le crowdfunding immobilier et qu'est-ce qu'on vient de rajouter? Donc les FCPR qui donc, se souscrivent sans aucun droit d'entrée chez Boursorama.
Ça c'est bien.
Donc voilà, c'est ce qu'on voulait faire. Je rappelle quand même que cette offre, elle est sans condition.
C'est parfait. Ça s'affiche, c'est parfait.
Elle est sans condition, sans engagement. Ouais. On ne demande pas au client de souscrire pour un montant X ou Y pour bénéficier de cette exonération, entre guillemets, de courtage ou de droit d'entrée dans le cas des fonds.
Pas de petite ligne, ça c'est pratique. Donc sans condition, sans engagement.
Aussi, sans engagement, sans frais cachés. Donc c'est complètement transparent.
Bon, voilà pour l'offre Boursomarkets maintenant. Ça y est, je suis convaincu, là j'ai tous les experts qui m'ont bien expliqué comment ça fonctionnait, comment je vais retrouver cette offre sur le portail Boursorama.
Alors, si vous voulez la chercher sur le portail, elle est dans la rubrique OPCVM qui doit s'afficher à l'écran, je pense.
Alors là, on a pris un petit peu d'avance, si on pouvait venir juste sur celle d'avant. Voilà, c'est parfait, super.
Parfait. Donc vous allez dans la rubrique OPCVM depuis le portail d'info Boursorama et vous avez une section qui s'appelle Private Equity, FCPR.
Jusque-là,
donc,
tout va bien.
Jusque-là, tout est simple. qu'est-ce que vous allez y retrouver dans cette section? Eh bien, le détail de l'offre qui est proposée par Boursorama.
D'accord.
C'est-à-dire, déjà, on vous explique ce que c'est. Même si on vient d'en parler ce soir, on vous réexplique un petit peu ce qu'est le FCPR, avec du contenu qui vous permet de mieux l'aborder, de prendre du temps pour se remémorer
concepts,
tout ce qu'on vient de se dire ce soir. La fiscalité, pourquoi est-ce que c'est un produit intéressant, Vous avez même un petit motion qui est en bas à droite, là, qui s'appelle le FCPR en 2 minutes.
Ah bah c'est bien ça.
Qui va voilà, vous donner un peu toutes les informations qu'on s'est dit ce soir, voilà, en 2 minutes, très simplement. Donc c'est un petit récapitulatif de ce que c'est que le FCPR, le Private Equity, et pourquoi c'est intéressant pour un investisseur particulier de se lancer dans l'aventure.
Bien sûr.
Donc là, vous avez des informations qui vous permettent donc de mieux appréhender, de mieux comprendre. Et ensuite, vous avez donc l'offre qui est mise à disposition des clients sur la partie bourse, donc en compte-titres et en PEA-PME. Donc le produit donc, de Amundi, de Odo et de Razéo, où là, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur le montant minimum pour investir, est-ce que le FCPR est fiscal ou pas, justement. Tout ça, ça vous est récapitulé donc, dans cet écran, avec le niveau des frais également, effectivement. Et ensuite, on vous offrira la possibilité, donc vous avez des petits boutons en bas roses, qui vous permettent d'en apprendre un petit peu plus sur chacun de ces trois produits. Là, par exemple...
Andréa, est-ce que c'est un fonds auquel je souscris n'importe quand dans l'année, quand je le veux?
Alors, il y a des périodes. Là, on le met normalement aussi dans l'écran précédent. Voilà. Oui. Par exemple, pour le Amundi Fleuron des Territoires par A prime, on vous dit bien que c'est jusqu'en décembre 2022.
Donc là, c'est maintenant.
Il y a une petite notion de timing quand même à avoir en tête, effectivement. Oui, c'est maintenant. Mais en tout cas, vous avez les dates pour chacun des produits. Donc, si vous avez un doute, voilà, toute l'information
Mais juste bien garder en tête que, puisqu'on a souvent pris l'exemple, on a souvent comparé une SICAV aujourd'hui, qu'on achète un petit peu comme ça. Là, c'est un petit peu différent. Il y a quand même des périodes à connaître, à respecter.
Tout à fait.
Très bien.
Donc ensuite, si vous cliquez sur chacun des boutons roses que vous avez en bas, eh bien, on vous réexplique.
On retrouve Bénédicte en vidéo qui nous explique le fond des territoires.
Encore elle.
Vous avez donc l'objectif un petit peu très succinct du produit. Une vidéo qui vous expliquera effectivement plus en détail avec Bénédicte en quoi consiste le fonds. Et également, on en parlait tout à l'heure avec Raphaël aussi, toute la documentation, le DC, le règlement, la brochure commerciale, qu'on invite bien sûr tous les investisseurs potentiels à lire avant de se lancer.
Et Raphaël le disait, c'est juridique, c'est quelquefois un petit peu lourd, un petit peu compliqué, mais en même temps, il y a aussi une masse d'informations incroyables qui permet vraiment de savoir dans quoi on s'engage et de ne pas avoir de mauvaises surprises si on est allé un petit peu trop vite.
Quand vous faites une acquisition immobilière, souvent avant une promesse de vente, vous lisez le projet de compromis du notaire.
Et plutôt très bien.
Et plutôt à deux fois. Et souvent, vous le faites relire par votre compagne ou votre compagnon.
Exact.
Donc là, il faut considérer que c'est un peu la même chose.
Et vous avez la brochure qui est un document un peu plus commercial, un peu plus accessible, qui vous donne aussi toutes les informations dont vous avez besoin, en tout cas, pour investir. Donc, évidemment, on a la même chose pour chacun de nos partenaires.
D'accord.
Donc, à chaque fois, une vidéo explicative sur le fonds, la documentation donc, réglementaire et commerciale. Donc, pour Odo, on a exactement le même concept. Et également pour le produit Euraseo. Donc là, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour investir, pour choisir celui qui vous convient le mieux. Alors, je le rappelle, là, on est dans une optique d'investissement dans le compte-titres, le PEA-PME.
Donc,
on
va voir pour l'assurance-vie. Comment je fais pour mon assurance-vie?
Alors, pour l'assurance-vie, en fait, c'est assez simple. Alors, si vous ouvrez une assurance-vie, vous avez été convaincu ce soir, vous n'avez pas encore d'assurance-vie, vous l'ouvrez chez Boursorama.
C'est le moment ou jamais.
Eh bien, au moment de votre parcours de souscription, en gestion libre,
précise,
on va vous demander de choisir les fonds dans lesquels vous voulez investir à l'entrée. Et vous avez donc là une section que je vous ai entourée en rose également, qui s'appelle donc Private Equity.
D'accord.
Donc, si ça vous intéresse, vous sélectionnez ce filtre et vous aurez donc bien les trois produits dont je vous ai parlé tout à l'heure qui apparaissent, donc, dans lesquels vous pouvez répartir vos investissements à la souscription. Et c'est la même chose si votre contrat est déjà ouvert en gestion libre. Et bien, au moment de vos versements ou de vos arbitrages, vous pourrez de la même manière, avec le même petit moteur, accéder au filtre Private Equity et arbitrer ou verser sur un des trois fonds ou sur les deux ou sur trois. Vous pouvez aussi diversifier par le nombre également, on l'a vu. C'est un outil vraiment fabuleux de diversification. Comme il investit sur un panel de sociétés, ça diversifie à l'intérieur du fonds et vous pouvez même diversifier entre les différents fonds qui sont proposés.
Bon, c'est très clair. C'est le moment où je crois qu'on tente de lancer une vidéo, c'est ça?
On va essayer.
Alors, il y a deux vidéos sur les deux parcours, c'est ça?
C'est ça. Alors, je vais vous montrer depuis un espace client.
Alors,
on va attendre un petit peu.
On sent qu'en
régie,
on est en train de se dire, mince, ils nous demandent de lancer la vidéo, ça va bien se passer.
J'aurais besoin du retour pour vous guider en même temps.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Là, on est dans l'espace client de Boursorama.
C'est super. Et ça marche.
Ça, c'est votre espace client. Vous allez dans mes services. Vous retrouvez donc le Boursomarket dont je vous ai parlé.
Oui.
Dans ce Boursomarket, on va retrouver dans toutes les classes d'actifs qui sont accessibles à 0€
de passage
de droit d'entrée. J'en ai parlé tout à l'heure, les produits de bourse, les ETF, les OPCVM, le crowdfunding, les FIP, les FCPI et bien sûr le Private Equity.
Pas oublier de faire défiler la barre pour retrouver le Private Equity.
Donc, vous cliquez sur le panneau Private Equity et vous retombez sur
la section
que je vous ai présentée tout à l'heure, avec donc les descriptifs, les vidéos pédagogiques, les articles qui vous permettent de mieux vous renseigner.
Là aussi, oui, d'être clair sur ce... Sur le
tout
produit.
À fait. Et on l'a vu tout à l'heure à l'écran, quand il y avait la vidéo du gérant, les descriptifs, il y avait un bouton « souscrire ». Et donc là, depuis cet écran, vous pourrez donc effectivement accéder au parcours de souscription qu'on va peut-être pouvoir voir juste après.
Voilà. C'est la deuxième vidéo ?
Là, je suis dans un parcours de souscription. Donc, on vous demande de valider vos données personnelles, des choses assez standards. Vous allez voir, ça se fait très rapidement. Donc, vous confirmez. Là, donc, selon le produit sur lequel vous êtes entré, on vous remet un descriptif rapide du produit. Donc voilà, la documentation évidemment dont on a parlé tout à l'heure, le DC, le règlement.
Oui, tout ça sont des liens cliquables.
La blanche, tout est cliquable, vous pouvez cliquer.
Pour les ouvrir.
Le montant minimum de souscription, là on est bien sûr en compte titre ou en PEA, PME. Les frais d'entrée et de sortie, bon, très simple, ils sont à zéro.
Ça c'est bien.
Ensuite, on vous demande d'entrer le montant que vous souhaitez investir. Donc en fonction du produit, le montant pourrait être différent, en compte titre ou en PEA, PME. Mais on vous rappelle le minimum de toute façon si vous l'avez oublié. Vous sélectionnez votre enveloppe, vous validez, on vous présente le bulletin de souscription avec
complet,
le DC,
voilà,
complet avec le DC attaché également. Donc là, bon, vous prenez le temps évidemment
de lire.
De bien lire, effectivement. Vous avez le DC à la suite. Une fois que vous avez bien lu toutes les conditions, que, vous êtes, voilà, que pour vous c'est très clair, vous souscrivez. On vous rappelle bien évidemment le montant que vous souhaitez investir, le code du produit, les différents frais. Donc Boursorama, du coup, zéro, c'est un produit Boursorama Market. Les frais du gestionnaire dont on a parlé tout à l'heure,
c'est très clair.
En toute transparence.
Tout est décomposé, hein, oui, voilà.
Voilà, on ne vous cache rien, ce que je vous disais tout à l'heure. Tout est disclosé ici. Et une fois que c'est OK pour vous, c'est, voilà, vous n'êtes pas trompé, vous confirmez. Vous reconnaissez quand même, alors bien pris connaissance du DC.
Bien
tout
lu.
On préfère que vous ayez bien lu et que vous le refassiez une dernière fois.
On l'a bien dit ce soir, en tout cas.
Une petite mention lue et approuvée, et c'est terminé. Donc vous voyez, alors, avec le temps supplémentaire pour bien lire la documentation, ça se fait en quelques minutes à peine. Donc on parlait tout à l'heure d'accessibilité. Ouais. C'est vrai que quand on parlait de private equity il y a encore peut-être un an ou deux ans à des particuliers, on se disait oh, les gens, vous êtes toute une montagne, ça va être compliqué.
Oui, il va y avoir de la paperasse, voilà. Ça va être long.
Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça se fait en ligne avec Boursorama. À partir de 25 euros en assurance vie, juste avec une petite modale d'arbitrage dont on a vu tout à l'heure les caractéristiques, on choisit private equity, on répartit son montant, on valide. Et on est investi sur les fonds de private equity.
Et ben voilà, et ben ce sera le mot de la fin, puisqu'on a expliqué de la philosophie du produit jusqu'à son acquisition très concrète. Merci à nos experts d'avoir été avec nous ce soir pour tout nous expliquer. J'espère que ça a été très clair pour vous. On se retrouve très bientôt, en tout cas pour un prochain webinaire. Et si vous n'avez pas pu tout voir, pas d'inquiétude, le replay sera d'ici quelques jours en ligne sur Boursorama. Merci beaucoup, très bonne soirée et à très bientôt.
Merci à tous.
Merci. Au revoir.